France Culture.
Orthodoxie, une émission proposée par Alexis Christostalis. Chers amis, une émission aujourd'hui intitulée « La prosopographie chrétienne et les conciles », inspirée d'un ouvrage paru récemment aux éditions Brepols sous le titre « Du christianisme et des hommes dans l'Antiquité tardive », dont l'auteur, Sylvain de Stéphen, historien, professeur à l'Université Caen en Normandie, est avec nous pour en parler. Sylvain de Stéphen, bonjour.
Bonjour.
Avant d'aborder notre sujet, parlons un peu de la prosopographie, cette discipline que vous connaissez si bien et qui n'est pas si évidente pour tout le monde.
Alors ce terme de prosopographie est un mot rare et savant. Il a été inventé au XVIe siècle par un humaniste allemand, mais il n'a obtenu ou trouvé son sens actuel qu'à la fin du XIXe siècle. Alors derrière ce terme savant se cache en fait une discipline rigoureuse et exigeante qui consiste à étudier les caractéristiques communes d'un groupe déterminé à une époque précise et dans un lieu également précis. On peut par exemple étudier la prosopographie des producteurs de Radio France, la prosopographie des préfets de France au temps du général de Gaulle par exemple.
Il faut peut-être un mot sur l'étymologie.
Mot prosopographie, étymologiquement, désigne la description de portraits. Donc à l'origine, la prosopographie au XVIe siècle est conçue comme une forme de version à la fois versifiée et également iconographique de grandes familles princières allemandes. Donc c'était ça l'origine en fait. Et le sens depuis le XIXe siècle est celui d'une étude systématique d'un groupe déterminé.
Donc en fait, c'est par les portraits de différentes personnes qu'on arrive à comprendre ce que l'histoire peut nous donner comme information. Alors vous qui êtes un spécialiste de l'Antiquité tardive, comment cela fonctionne-t-il? C'est-à-dire la prosopographie, en quoi vous êtes utile à vous et aux autres, j'imagine, parce qu'évidemment vos travaux sont après lus par les autres.
Alors la prosopographie est une discipline qui a pris une ampleur toute particulière pour l'histoire romaine depuis le XIXe siècle. Et après la Seconde Guerre mondiale est né un projet international qui a été divisé entre une équipe britannique et une équipe française, où chacune des équipes recense tout le personnel, alors du côté britannique civil, militaire, intellectuel, et du côté français le personnel ecclésiastique de l'Antiquité tardive, c'est-à-dire en gros entre le 4e et le 7e siècle.
Et il y a déjà une série d'ouvrages évidemment parus dans cette logique, prosopographie du Bas-Empire, on a par exemple, etc., qui sont très utiles aux chercheurs qui travaillent sur cette époque. Alors, la prosopographie fait son travail, si je puis dire, et donne des portraits. Comment, après, ce travail serve-t-il aux historiens, qui ne sont pas, eux, des spécialistes de prosopographie?
La prosopographie se présente donc comme une succession de notices biographiques ou de notices d'individus qui sont donc liés d'une manière ou d'une autre les uns avec les autres. Le but de la prosopographie est de dépasser les cas individuels pour pouvoir, de manière, je vais dire, systématique ou presque mathématique, eh bien, discerner, dépister des caractéristiques communes qui nous permettent ainsi de mieux voir l'évolution d'un groupe, les transformations également d'un groupe. Ça peut être sa formation intellectuelle, son origine sociale, son parcours professionnel, par exemple.
C'est une base de données, en fait,
qui peut
servir aux historiens d'aujourd'hui et qui est très très utile, on le sait. Alors avant d'en arriver au concile, puisque cette année évidemment, vu l'anniversaire du concile, le premier concile œcuménique du monde chrétien, 1700 ans, on va fêter depuis Nicée 1, en 325 donc, c'est l'année des conciles. Alors ce qui nous appelle à parler et à les scruter un peu dans l'histoire des conciles. Mais avant, je voudrais quelques mots sur l'ouvrage paru récemment, qui est un ouvrage tout à fait scientifique, évidemment. Je rappelle sous le titre « Du christianisme et des hommes dans l'Antiquité tardive », essai au pluriel de prosopographie par Sylvain de Stéphen. Alors, qu'en est-il en fait?
C'est un livre que j'ai publié l'année dernière chez Brepols en Belgique et qui regroupe une dizaine de chapitres qui sont eux-mêmes tirés d'un cycle des conférences que j'ai donné à l'école pratique en ligne ou à distance, puisque nous étions juste après le Covid. Et c'était des conférences à l'invitation de Michel Perrin, qui est directeur d'études du christianisme latin tardif dans la section religieuse de l'école pratique. Le cycle des conférences portait donc d'abord sur l'histoire de la discipline, c'est-à-dire l'histoire de la notion de prosopographie, les transformations de cette discipline du XVIe jusqu'au XXe siècle. Et la seconde moitié du livre porte plus spécifiquement sur les utilisations que l'on peut faire de la prosopographie pour reconstituer et mieux connaître l'histoire du christianisme dans l'Antiquité tardive.
Pour nos lecteurs qui n'ont pas le livre dans les mains, je donne des titres des chapitres, tour à tour, « L'essor de la prosopographie à l'âge classique », le renouveau de la prosopographie depuis le XIXe siècle, la prosopographie civile du Bas-Empire, la prosopographie chrétienne du Bas-Empire, ça se spécialise donc, la prosopographie chrétienne et les conciles, c'est ce qui va nous intéresser davantage aujourd'hui, la prosopographie chrétienne et l'hagiographie, donc l'histoire des saints, la prosopographie chrétienne et le nomastique en Orient, encore des termes qu'il faut peut-être expliciter, la prosopographie chrétienne et les hiérarchies, et la prosopographie chrétienne au féminin. Voilà, donc on voit que c'est très varié. Peut-être, puisqu'on l'a dit, un mot sur le nomastique.
Le nomastique est l'étude scientifique des noms, prénoms, noms de famille ou surnoms. Nous avons tous un prénom et un nom, parfois deux noms de famille. Les Romains, l'originalité d'avoir en principe un prénom, un nom et un surnom, mais à partir en gros du 3e siècle, ce système de trois noms disparaît et les individus n'ont plus généralement qu'un seul prénom, ce qui complique un peu les choses évidemment lorsqu'on veut reconstituer des familles.
Alors nous allons maintenant nous concentrer sur le sujet vraiment qui nous intéresse aujourd'hui, la tradition conciliaire originale, dites-vous, les sous-titres maintenant. La tradition conciliaire impériale, le phénomène conciliaire, les conciles dits écuméniques, tradition conciliaire et géographie historique. On va les prendre un par un pour voir quel en est le contenu. Mais déjà, je dirais, est-ce que l'histoire des conciles doit beaucoup à la prosopographie? Et comment fait-on la prosopographie des conciles?
Alors, l'intérêt des conciles, c'est qu'ils constituent une institution chrétienne qui est antérieure à l'officialisation du christianisme. Il faut attendre 313 et le dit édit de Milan adopté par Constantin pour que le christianisme ait une reconnaissance officielle par l'État romain. En réalité, le concile ou le phénomène conciliaire est beaucoup plus ancien puisqu'il a pour prototype, la réunion des apôtres et des anciens à Jérusalem autour de l'an 48 ou 49, vraisemblablement d'après les actes des apôtres. Et cette première réunion, justement, crée une tradition. Tradition apostolique qui se perpétue au cours des siècles, avant comme après la reconnaissance officielle du christianisme par l'État romain, et qui voit chaque fois participer des membres de l'Église à ces associations, à ces réunions. Or, la prosopographie nous permet justement de pouvoir étudier l'identité des membres, l'identité des participants au concile.
Il y a des spécialistes des conciles, historiens, oui, ça existe, bien sûr.
Oui, bien sûr, il y a d'éminents spécialistes de l'histoire des conciles en France, en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique latine également.
Et disons-le d'emblée, il y a aussi un ouvrage depuis longtemps maintenant de Effelé qui est un...
C'est ça, Karl Effelé était un évêque bavarois du 19e siècle qui a écrit une monumentale histoire des conciles depuis les origines jusqu'au 19e siècle, donc c'est vraiment l'œuvre d'une vie et c'est une histoire monumentale des conciles qui a été traduite au début du 20e siècle par un moine bénédictin français qui était établi en Angleterre qui s'appelle Henri Leclerc. Et cette traduction est plus qu'une traduction, parce que c'est aussi une version enrichie, en fait, de la version allemande d'origine.
Alors, les conciles produisent des textes, on va en parler peut-être, qu'on appelle d'habitude des définitions, hein, parce que ce sont des textes dogmatiques, les grands conciles en tout cas, hein, les conciles dits écuméniques en particulier. Et pour notre pause musicale, nous allons proposer un extrait du Credo d'Arvo Pärt, compositeur contemporain, devenu orthodoxe même. C'est une œuvre pour piano, chœur et orchestre qu'on entend ici par Hélène Grimaud, le chœur et l'orchestre de la radio suédoise sous la direction d'Esa-Pekka Salonen.
Thank you.
après ce petit extrait du Credo d'Avopert par Hélène Grimaud et l'orchestre de la radio suédoise sous la direction d'Esa-Pekka Salonen, nous revenons à notre entretien avec Sylvain de Stéphane sur la prosopographie chrétienne et les conciles. Maintenant, parlons peut-être de ce que vous développez dans votre ouvrage, Sylvain de Stéphane. Vous faites une distinction entre la tradition conciliaire originale et la tradition conciliaire impériale. Alors peut-être quelques mots là-dessus.
Oui, alors pour expliquer pourquoi il y a cette distinction, cette ligne de partage des eaux entre la tradition conciliaire originale et celle qu'on peut considérer comme impériale, tout simplement l'époque et l'organisation. Avant l'officialisation du christianisme en 313, les évêques ont déjà l'habitude de se réunir de manière épisodique, hein, sans, j'allais dire, calendrier précis, pour, dans certaines régions, pour certaines portions de l'Empire romain. Nous avons des exemples de réunions ecclésiastiques en Asie mineure, en Palestine, en Afrique du Nord, en Italie par exemple. Cette tradition conciliaire originale va servir à l'établissement d'une tradition conciliaire qu'on peut considérer comme impériale, dans la mesure où cette fois les réunions ecclésiastiques vont être décidées, ordonnées, organisées, hébergées, financées, contrôlées aussi d'une certaine manière par le pouvoir impérial.
Le pouvoir impérial qui a certaines fois, mais quand même à disposition du concile, toute une infrastructure qui permet
au concile
de se
tenir. La logistique du concile est assurée par le pouvoir...
La poste impériale, par exemple.
La poste, le logement, l'hébergement, le transport, tout cela, évidemment, est assuré par le pouvoir lui-même.
Alors, quels sont les conciles impériaux, si on peut parler de ça? Est-ce qu'on peut avoir une distinction nette?
On peut avoir une distinction nette dans la mesure où est considéré comme un concile impérial, une réunion ecclésiastique qui a été décidée, ordonnée par le pouvoir impérial. Toutes les réunions ecclésiastiques ne sont pas commandées et ordonnées par le pouvoir impérial. La plupart, en fait, des réunions ecclésiastiques sont des réunions à l'échelle d'une province, hein, de quelques évêchés. Ce sont des réunions qui ont lieu généralement une fois par an ou une fois par semestre, et le pouvoir impérial ne s'en occupe pas. Ce sont des réunions formelles mais routinières, qui n'ont pas de grande portée, sinon pour des questions de discipline ecclésiastique à l'échelle d'une province ecclésiastique, pas plus. En revanche, les conciles qu'on peut considérer comme impériaux sont, eux, ordonnés et décidés par le pouvoir impérial. Et le pouvoir impérial a le souci, justement, lors de la réunion de ces conciles, qui sont des conciles donc d'une taille extraordinaire par rapport aux conciles ordinaires à l'échelle d'une province ou d'une portion de l'Empire, que ces conciles, dans la mesure du possible, soient représentatifs de l'ensemble des évêques et donc de l'ensemble des chrétiens du monde romain, voire même des confins du monde romain.
Il faut dire aussi quels sont les sujets. Est-ce que, bon, vous avez dit quand les réunions sont plutôt régionales, ce sont des sujets plutôt de discipline, etc. Quand l'empereur convoque, quelle peut être la raison?
Les empereurs convoquent des conciles que la tradition dénomme des conciles écuméniques, c'est-à-dire des conciles universels. Le terme est même employé par l'un des membres et l'un des protagonistes du concile de Nicée, qui est un évêque de Palestine du nom d'Eusèbe de Césarée. C'est lui-même qui emploie cet adjectif et l'adjectif s'est ensuite transmis. Le but de l'empereur lorsqu'il convoque un concile extraordinaire, donc un concile de dimension impériale, est généralement de régler une question doctrinale, une question dogmatique, donc un point de la foi, un élément essentiel de la foi chrétienne.
Et donc il demande aux évêques d'apporter une réponse.
Voilà. Exactement, l'empereur demande donc aux évêques d'apporter une réponse, l'empereur lui-même ne donne pas de réponse, l'empereur lui-même ne participe pas au débat parce qu'il est un laïc, les conciles sont des assemblées où seuls participent des ecclésiastiques, plus spécialement des évêques ou des représentants d'évêques si l'évêque est malade, il n'a pas pu faire le voyage. Et au cours de ces réunions, justement, les évêques doivent décider collectivement et en principe unanimement pour définir une position dogmatique qui est considérée comme ce qu'on appelle un symbole de la foi, c'est-à-dire une formule resserrée qui exprime les fondements et les croyances essentielles du dogme chrétien.
Et il faut dire que ces textes voyagent après dans le temps, non seulement en matière de théologie, enfin de spécialistes, mais dans la vie de l'Église. On a entendu tout à l'heure un petit extrait du Credo d'Avopert. C'est le texte, en fait, défini par les conciles de Nicée de 325 et de Constantinople de 381, qui est le symbole de la foi que l'Église orthodoxe, mais également catholiques, avec un petit ajout, évidemment, ça c'est autre chose, utilisent encore dans tous les offices.
Donc, vous avez parfaitement raison. La définition dogmatique de Nicée a été reprise et complétée par le Concile de Constantinople, dit Concile de Constantinople I en 381. Et c'est donc ce credo, ce symbole de foi que les fidèles répètent durant la liturgie, qu'elle soit orthodoxe ou catholique. Précisons que dans l'Antiquité tardive, la distinction que nous faisons aujourd'hui entre orthodoxe et catholique n'a absolument aucun sens. Les deux termes sont utilisés de manière, j'allais dire, presque comme des synonymes, puisque les individus qui sont chrétiens se considèrent comme orthodoxes et catholiques en même temps. La distinction ne prend de sens, disons, progressivement qu'au cours du Moyen-Âge, mais pas dans l'Antiquité tardive.
Et d'ailleurs, il faut rappeler que la référence à un concile devient à partir d'un moment, très vite d'ailleurs, une référence absolue. S'il y a une décision conciliaire, les conciles qui suivent après, on ne peut pas ignorer.
Exactement.
Sauf si le concile a été déclaré comme...
comme hérétique, oui, voilà. Bon. Mais chaque concile considéré comme œcuménique s'appuie toujours sur une tradition, c'est-à-dire sur la définition dogmatique, sur les décisions qui ont été prises par les conciles antérieurs. Raison pour laquelle l'histoire du christianisme se construit à partir de la définition dogmatique du Concile de Nicée en 325, dont nous célébrons cette année le 1700e anniversaire, c'est-à-dire que les chrétiens se positionnent par rapport aux dogmes définis au Concile de Nicée. Certains y sont hostiles, d'autres y sont favorables, et c'est le courant favorable qui finalement l'emporte au cours du IVe siècle. Et ce triomphe, j'allais dire, du symbole de Nicée, eh bien, il est consacré par le Concile de Constantinople en 381.
Il faut dire aussi que le premier concile dit œcuménique, donc celui de 325, est resté comme le modèle. Hein,
pas, oui. Exactement, il est resté comme le modèle. Alors, d'une part, un modèle pour ce qui est de son organisation, donc une réunion ecclésiastique qui est convoquée par l'empereur. C'est l'empereur qui fixe le calendrier de la réunion, c'est l'empereur qui fixe le lieu de la réunion. C'est l'empereur aussi qui va fournir ce que j'ai dit, c'est-à-dire toute la logistique, évidemment, autour de ce concile. Et ce qui est aussi qui est important, c'est que l'empereur va être présent, ou des représentants de l'empereur peuvent assister, non pas participer, mais assister aux réunions pour s'assurer du bon ordre et du bon déroulement des décisions. Le principe donc du Concile de Nicée, eh bien, va être de former ou de constituer un véritable processus ou un véritable prototype institutionnel qui est ensuite appliqué, répété par les successeurs de Constantin et donc dans les autres conciles impériaux tout au long de l'Antiquité et du Moyen-Âge.
Alors, pour en finir avec votre chapitre sur la prosopographie chrétienne et les conciles, dernier sous-titre, la tradition conciliaire et géographie historique. Qu'entendez-vous par là ?
Alors, en fait, des conciles œcuméniques, nous avons généralement trois types de documents qui nous sont conservés. Nous avons le symbole de la foi, c'est-à-dire donc la formule dogmatique essentielle. Nous avons parfois les procès-verbaux, c'est-à-dire un compte-rendu des débats. Nous les avons perdus pour le IVe siècle, mais on commence à les conserver à partir du Ve siècle. Et nous avons enfin ce qu'on appelle une liste de souscriptions, c'est-à-dire la liste des évêques qui ont signé les décisions qui ont été prises au concile, soit des décisions de nature doctrinale, le symbole de la foi, soit des décisions de nature disciplinaire, ce qu'on appelle des canons conciliaires, ou ce qui est en gros à l'origine du droit canonique. Et donc, c'est la prosopographie a un intérêt dans la mesure où l'examen minutieux des listes de souscription permet de nous faire connaître non seulement l'origine de ces évêques, mais aussi les régions dont ils sont issus, les évêchés qu'ils représentent, les cités où ils sont établis. C'est donc une manière de mettre ensemble histoire religieuse et géographie historique.
Sylvain de Stéphane, pour terminer, avec le peu de temps qui nous reste, un mot sur la géographie, la prosopographie et la géographie. Et peut-être après, s'il y a un rapport entre la géographie et les conciles. C'est intéressant, oui.
Alors, la géographie désigne à l'origine l'étude des saints et des saintes. Et il faut savoir que dans l'Antiquité, il n'existe pas de processus institutionnel pour devenir un saint ou une sainte. On devient saint ou sainte, après sa mort évidemment, uniquement en fonction de la ferveur populaire, de la popularité, de la réputation de ce personnage qui, en principe, a dû accomplir durant son vivant, voire aussi après sa mort, des miracles. Le clergé joue un rôle tout à fait décisif dans la promotion, la popularité, donc la reconnaissance de l'existence de saints et de saintes. Ce personnel de saints et de saintes est relativement nombreux dans l'Antiquité et ces personnages sont d'autant plus nombreux qu'ils sont omniprésents. Leurs corps se retrouvent vénérés en des lieux très variés et ils constituent d'une certaine manière une forme de transition entre le monde des humains et le monde divin. Une possibilité pour les fidèles, évidemment, de se rapprocher de Dieu.
Ben écoutez, c'est passionnant. Alors, est-ce qu'il y a un vrai rapport entre la géographie et les conciles ?
Alors, il y a un rapport qui est assez ténu en réalité. On se rend compte que même si on les considère comme les saints-pères ou les pères conciliaires, c'est-à-dire les évêques qui sont participants des conciles écuméniques, les saints parmi eux sont relativement peu nombreux en fait. Ce n'est pas la participation à un concile qui fait le saint, c'est plutôt les œuvres et les actions personnelles d'un individu qui en font un saint ou un saint de son vivant ou après sa mort, mais pas la participation à un concile.
Et il faut dire que dans l'Église ancienne, il n'y a pas cette formalisation de la déclaration de quelqu'un comme un saint.
Exactement.
D'ailleurs, dans l'Église d'Orient, l'Église byzantine, je crois que la première attestation date du XIVe siècle, avec Grégoire Palamas. Hein,
c'est pas... Exactement. Il n'y a pas de processus institutionnel pour proclamer la sainteté d'un individu.
Bah écoutez, merci beaucoup, c'est passionnant. Alors, même si le livre est très scientifique, il est tout de même passionnant et on peut le lire par chapitre de toute manière parce qu'il est organisé comme ça. Sylvain de Stéphane, merci. Je rappelle donc le titre de votre ouvrage, Du christianisme et des hommes de l'Antiquité tardive, Bibliothèque de l'École des hautes études, sciences religieuses, volume 202, c'est chez Brepols, 2024. C'était la prosopographie chrétienne et les conciles avec Sylvain de Stéphane. Ainsi prend fin Orthodoxie, une émission sous l'égide de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France proposée par Alexis Christostalis. Réalisation François Connac. Prise de son Ludovic Auger. Vous pouvez réécouter, télécharger cette émission sur le site franceculture.fr ainsi que sur l'application Radio France. Et dans quelques instants, vous retrouverez Solae, le rendez-vous protestant avec Jean-Luc Gadreau.